Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom, chronologie, seconde partie. Que s'est-il passé pendant ces 185 ans? L'homme a répandu sa présence à travers l'espace. Plus de 600 planètes ont été colonisées, dont près de 400 systèmes solaires différents. Les tensions entre les pro-colonisations et les anti-colonisations se sont exacerbées, du moins au début, avant d'être parfois violemment écrasées. Les tenants du respect de la nature, des planètes, de la vie, étant généralement du côté des anti-colonisations, donc dans le collimateur des autorités, quelles qu'elles soient. Comme on l'a vu, le terme d'éco-terroriste ayant définitivement remplacé le terme d'éco-activiste, car aux yeux de ceux qui ont le pouvoir, tous se tiennent la main plus ou moins. En parallèle, ce qui n'était au début que des univers virtuels pour jouer est devenu la base du monde virtuel permettant de relier les humains non plus d'une planète à l'autre, mais d'un système stellaire à l'autre. Comme souvent, le socle de ce que l'on pouvait appeler réseau social étant rapidement rattrapé puis dépassé par le mercantilisme. Les villes virtuelles se sont développées, se sont multipliées, profitant des technologies de communication qui, utilisant le réseau Arnitz, propage l'information presque instantanément entre les colonies grâce à un nouvel aspect de l'anomalie spatio-temporelle qui a été découvert et développé depuis. C'est ainsi que le voyage spatial interstellaire, sans devenir routinier, devient régulier, par exemple quand on cherche du travail. Le commerce se fait à travers une grande partie de cette branche de la galaxie. Les marchandises pouvant être déposées sur des gigantesques entrepôts type la planète Los Angeles. Tout le reste du commerce passant par les fameuses villes virtuelles. L'humanité reprend donc sa course démesurée à la croissance, comme au XXe siècle, limitée à la planète, maintenant ouvert sur toute la galaxie, une expansion sans limite, contre la volonté des anti-colonisations, quelle que soit leur motivation. Une partie de ceux-ci étant les fameux éco-terroristes, une partie de ceux-là les adeptes du grand équilibre, la religion, issue du cycle de Yom, portée par les nouveaux adeptes se référant à Oussem Ouedraogo. La vie de Loun et Méridiès ayant déjà été présentée dans ses grandes lignes, nous allons directement à l'année 13. Loun a 13 ans au moment de la naissance de Clémence Hansrider. Que dire de cet autre personnage clé? Déjà que cette date de naissance n'a rien de confirmé. Pas plus que son identité réelle, Clémence Hansrider n'étant certainement pas son nom de naissance. De ce fait, impossible de savoir quand il a basculé dans la clandestinité, et quand il est devenu cette espèce de maître du grand équilibre dont les adeptes boivent les paroles. De même, sa façon de se prévaloir d'être un descendant direct d'Oussem Ouedraogo ne peut être vérifiée. On doit donc lui faire confiance, pour cela et pour cette fameuse lignée qui aurait permis, oralement, de préserver le livre Apocalypse de génération en génération et donc de pouvoir raconter le cycle de Yom dans son intégralité. Tout ce qui entoure ce personnage est rigoureusement secret, car il est effectivement parmi ceux les plus dangereux pour le pouvoir, parmi les éco-terroristes. Encore plus que ceux qui recourent à la violence, puisque lui va théoriser, donner un socle intellectuel, voire mystique, selon certains, à leurs actions violentes. Dès lors, même parmi ses adeptes, remettre en cause ses paroles ou ses pensées, encore plus ses références, peut être considéré comme une hérésie. Le terme « hérésie » n'étant pas exagéré, puisqu'encore plus que tous ses prédécesseurs, Clémence Hansrider a réellement développé l'aspect mystique du cycle de Yom et de tout ce qui en découle. En ce sens, il n'est plus nécessaire de chercher des preuves ou de croiser les informations pour découvrir ou non certaines coïncidences. Ainsi, de certains éléments clés de la vie de son aïeul, Oussem Ouedraogo, dont la naissance aurait eu lieu la même année que l'édition de Cafté, le premier livre du cycle de Yom. Malheureusement, nous n'avons aucune trace de cette naissance. De la même manière, son exil en Inde et son mariage avec Kapa Ali Nilmani, 60 ans exactement après la naissance d'Ernest Arendish. Le mariage est authentifié, mais le fait d'avoir, dans la même année, quitté l'Afrique, découvert l'Inde, sa future épouse, l'avoir épousée, peut laisser songeur. Il en va de même sur les fameuses références au Tamoul, pour Cafté ou pour Eredust. Pendant ces 250 ans de tradition que l'on dit orale, il est clair que ce n'est pas dans les premières décennies que ces approximations, voire ces erreurs, ont été commises. La fille de Oussem et de Kapa Ali parlait certainement Tamoul. Il a certainement fallu attendre plus de temps que le Tamoul finisse par disparaître, pour que ce genre de référence puisse être, si ce n'est créé, du moins imaginé. Il en va de même pour tout le message mythique du fameux cycle de Yom, qui peut-être, au démarrage, n'était qu'une simple fiction, que l'on aurait enrichie, traduite, voire pour certains, dévoyée, instrumentalisée, pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. 250 ans de modification, sans que l'on puisse savoir si elle date du début, si Oussem, déjà, s'était saisi du cycle pour en faire un outil, ou si c'est une pure invention de Clémence qui a récupéré quelque chose qui n'était peut-être pas le mythe de la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui. Bien sûr, ceux qui cherchent absolument à trouver des signes tangibles, vérifiés, ne manqueront pas de mettre en avant la coïncidence de notre année -227, où trois événements parfaitement certifiés relient un petit peu tous les fils de cette histoire. La publication d'Apocalypse par Ernest Arendish et sa destruction, à Angebashan, le développement d'Algorine par Peter Rolletter, date que l'on connaît grâce au service secret indien, et la naissance de Kappa Ali Nilmani. Pour les adeptes du grand équilibre, ce type de recherche est une hérésie. Cela revient à tenter de rationaliser quelque chose qui, pour eux, ne tient pas du mythe, mais du mystère, dont la concrétisation, sous les yeux du propre Viti Inkan, devrait suffire à démontrer sa véracité profonde. De toute façon, ceux qui croient n'ont pas besoin d'être convaincus, et la présence du Viti Inkan, et aussi de Clemens Rider avant chacun des événements qui vont faire basculer l'humanité, tente à leur donner raison, du moins aux yeux de ceux qui doutaient, mais n'étaient pas loin de se laisser convaincre. Allons rapidement à l'acmé de notre récit, en passant les différentes étapes que vous connaissez déjà, pour Lune Meridies, son entrée à l'école de police à 17 ans, après la perte de son père, puis la perte de sa mère, son début de carrière, sa vie familiale, son divorce, pour arriver à ses 41 ans quand il part à Los Angeles. Puis, ses trois premières années, le fait de re-signer pour un nouveau contrat de 3 ans, pour continuer à travailler sur les villes virtuelles, devenir un citoyen pour pouvoir intégrer l'IAMAS, et quelques mois plus tard, l'émergence de Red Hust. C'est par l'entremise d'un pirate informatique que connaît Lune Meridies, Gus, que Clem fait irruption dans le paysage, étant presque en train de prédire ce qui va arriver. Là encore, si le Viti Inkan peut douter non pas de ce qu'il voit, mais des raisons profondes, se laissant potentiellement influencer par ce que disent les autorités, que les éco-terroristes, même s'ils ne sont que mystiques ou politiques, prédisant l'apocalypse, voire le pronant, peuvent à un moment ou à un autre décider de l'accélérer en mettant la main à la pâte, nous savons qu'il est tout de même ébranlé par ce qu'il s'est passé. Il tourne néanmoins la page. Fin de l'histoire. Du moins, pour lui, fin de cet épisode douloureux et passage à la vie dont il rêve depuis des années, l'intégration à l'IAMAS. Après tout, une planète en quarantaine, une de plus. Sa méconnaissance de l'histoire globale, voire sa volonté de se consacrer non pas au monde réel, mais au monde virtuel, lui permet effectivement de passer à autre chose. Là encore, les incrédules ne peuvent que remarquer une nouvelle coïncidence, puisqu'il intégrera, de manière exceptionnelle, l'équipe qui aura affaire à Algorine, et donc au deuxième basculement de l'humanité. De nouveau, par l'entremise de Gus, Clem est présent, prévoyant, prédisant ce qui va arriver, c'est-à-dire le véritable apocalypse. Dans le premier cas, en effet, un Red Hust, une planète en quarantaine, une sur des centaines. Peut-être aura-t-il fallu plus de temps pour que Clem puisse expliquer à l'humanité entière le danger que représente le Red Hust. Impossible de savoir s'il s'y est attelé. Et en ce cas, s'il aurait réussi, et en combien de temps, créant peut-être alors effectivement l'apocalypse par la peur de l'expansion au-delà des planètes existantes. Alors que là, pour ce second apocalypse, c'est tout le monde virtuel qui disparaît. Tout ce lien qui existe entre les différentes planètes et les différentes colonies à travers la galaxie. Comme sur Los Angeles, les réactions en chaîne finissent par toucher tous ceux qui, au démarrage, pouvaient penser être à l'extérieur de l'œil du cyclone. Attaqué par des pirates, peu soucieux que ces attaques finissent par faire disparaître l'intégralité de leurs cibles, certaines boutiques font faillite et se retournent contre les villes virtuelles dans des promesses de procès gigantesques qui finiront par faire en sorte que ces villes déposeront le bilan, laissant sur le carreau les quelques acteurs qui n'avaient pas été touchés par les pirates, mais qui dépendaient de cette ville. Nous sommes dans la 45e année de la vie du Viti Inkan. Couplé à une autre boîte à outils développée par des pirates informatiques, Algorine va définitivement rayer le monde virtuel de la carte, du moins tel qu'il s'est développé au cours des deux siècles précédents. En moins de 2 ans, toutes les villes virtuelles disparaissent. Détail dérisoire. Ubriel, la première, tient à être la dernière à disparaître. Une simple astuce. En réalité, elle n'a même pas été la dernière des plus grandes à disparaître. L'avant-avant-dernière, mais dans la même semaine. Par contre, un serveur sera laissé allumé pour que dans l'histoire, après la disparition au fur et à mesure, des villes virtuelles plus petites, moins connues, jusqu'à ce qu'il n'y en ait finalement plus une seule, Ubriel puisse effectivement être la dernière ville virtuelle à éteindre son dernier serveur, qui tournait dans le vide depuis déjà pas mal de temps. Yamas n'existe plus depuis plusieurs mois, faute de clients, faute de financement, faute d'avoir réussi à remplir sa mission, préserver les villes virtuelles. Profitant, avant de se dissoudre, de ce qui lui reste de fonds et d'influence, elle permettra à tous ses agents du Dôme, dit Alden, de décider s'ils veulent rester sur la planète Pangeto ou partir. Beaucoup partiront, profitant des derniers vols spatiaux un petit peu facilités pour s'égayer un petit peu partout dans cette branche de la galaxie. Lune et Meridies restera. Pour service rendu, il sera même autorisé à prendre un appartement sous le Dôme où l'administration centrale va s'installer. Il réalise ainsi son autre vœu le plus cher, vivre, quand il ne travaille pas, dans un environnement protégé où il n'est pas obligé de porter ni sa combinaison anti-UV ni son conneur. Il a intégré la police de la ville et, toujours pour service rendu, on lui a proposé d'accéder à des postes qu'il avait fait rêver, étant jeune, ceux au-dessus du plafond de verre, qu'il avait rapidement découvert ne pas pouvoir atteindre sur Enarsemis. Il avait poliment décliné, demandant à redevenir simple chef de patrouille. Après ses voyages interstellaires, ses citoyennetés virtuelles, ses années solitaires passées sur Los Angeles, il voulait simplement retrouver l'univers qui lui était resté malgré tout le plus familier. La foule, la rue. 8 à 10 heures par jour, 5 à 6 jours par semaine, il enfilait donc sa combinaison anti-rayonnement, reprenait son conner et partait se confronter à l'humanité. La vraie. Celle qu'il avait toujours connue en tant que flic. Le crime, la violence, la misère. Mais aussi les larmes de ses jeunes parents à qui l'on rendait leur enfant perdu dans un centre commercial trop grand pour eux. Grandir pour servir. Grandir pour servir. Grandir pour servir. Grandir pour servir. Grandir pour servir.